nous restons avec la musique sur France Culture, puisqu'à 20h, c'est l'heure du rythme et la raison. Alain Gerber, Georges Pazinski.
Fleur de peau.
Histoire de la batterie, chapitre 5.
Les planteurs puritains ne reconnaissaient aucune dignité humaine à leurs esclaves. Ils tenaient pour condamnable tout ce qui leur rappelait leur passé africain. Ils comprirent d'instinct qu'en proscrivant l'usage des tambours, on frappait au cœur de la religion africaine. Sans tambour, il devenait impossible d'appeler les ancêtres. Ce sont eux, les ancêtres, qui parlent à travers les battements des tambours. Ce sont eux encore qui fixèrent à l'origine des temps les rythmes fondamentaux. Jan Heinz, Jan, Muntu, l'homme africain et la culture néo-africaine, édition du Seuil, 1961. Miles Davis, Tony Williams, So What? So What? Et alors? Et alors ceci. Hésitant entre une musicalité presque désincarnée, une poésie pure qui font oublier l'instrument et la tentation du bruitage, loin des rudiments, loin des formules, de Paul Motian à Dave Weckl, la batterie se perd pour mieux se retrouver. On exige du batteur qu'il puisse interpréter les rythmes les plus complexes avec simplicité, qu'il frappe plus vite que son ombre mais dans la relaxation la plus grande, qu'il joue tout et n'importe quoi et le reste et qu'il soit cependant unique en son genre. On a fait de lui un paradoxe vivant, le bouc émissaire chargé non pas de tous les péchés mais de toutes les contradictions du jazz d'aujourd'hui. Il doit être un savant ingénu, un aventurier traditionnaliste, un primitif d'avenir, un passionné au cœur d'artichaut, un volage au cœur fidèle. Une chose est certaine, dans l'indépendance comme dans la coordination, dans la maîtrise de chaque membre et dans la complication des idées, on est allé à peu près aussi loin qu'il était possible sans sombrer dans la schizophrénie ou laisser définitivement la parole aux machines. La batterie de demain, parions-le, ne sera pas celle d'aujourd'hui, mais il lui faudra résoudre le problème qui s'est posé tour à tour dans le domaine de la mélodie, dans celui de l'harmonie, dans la littérature, dans les arts plastiques. Comment s'inventer encore une modernité quand on a épuisé jusqu'au silence, à la page et à la toile blanche, tout le champ des expériences? Ceux qui pratiquent l'instrument vous répondront sans doute qu'ils n'en ont cure, qu'un seul coup de baguette sur la plus banale des surfaces demeure pour eux un défi, une gageure, une épreuve encore et toujours insurmontable. Ainsi, les tambours préservent-ils le mystère originel dont ils sont nés et qu'ils ont transporté jusqu'à nous à travers les cultures et les siècles? Tony Williams avec Miles Davis en février 1964. Tony Williams, l'année précédente, il faut rappeler qu'il avait 17 ans, avait accompli en de nombreux domaines une nouvelle révolution dans l'histoire de l'instrument, alors même que le gros des amateurs et des critiques n'avaient pas encore très bien digéré celle qui s'était amorcée en novembre 1957 lorsqu'Elvin Jones et Sonny Rollins avaient fait équipe au légendaire Village Vanguard de New York. Nous reviendrons sur l'apport, apport inestimable de Tony Williams, mais il nous appartient aussi de rétablir dans cette émission la chronologie, de rétablir dans ses droits un musicien qu'on commença de porter au pinacle à la fin des années 60, mais qui avait accompli sa petite révolution personnelle 10 ans plus tôt, lorsqu'il était le batteur du trio de Bill Evans, Paul Motian, ou Motion à la française, un homme dont les commentateurs à l'époque ne disaient qu'une chose, il avait un gros son. Pourtant, George Pazienski, il s'agissait de bien autre chose.
Il rentre dans le cadre de ce que Bill Evans appelait les « listening drummers », c'est-à-dire des batteurs qui écoutent. Paul Motian avait d'abord tout un travail de ballet, tout un travail de baguette, mais surtout une façon d'accompagner qui n'était plus un accompagnement traditionnel tel qu'on pouvait le faire dans les années 40. Il commençait, notamment dans les feuilles mortes, et je crois que vous avez, Alain, choisi ce morceau.
Oui, on va l'écouter tout à l'heure.
Eh bien, la batterie devient un instrument soliste au même titre que Scott LaFaro devient une contrebasse soliste, mais en permanence, en accord avec le pianiste. C'est-à-dire qu'en fait, les trois sont des instrumentistes solistes. Il n'y en a pas un qui attend les deux autres pour jouer. La mélodie de la batterie, à ce moment-là, est au service de la mélodie de tous les autres musiciens. La charleston est libre, il y a des tout petits coups de grosse caisse, il y a des cymbales, et c'est surtout un travail baguette-ballet tout à fait remarquable.
Dans l'histoire du jazz, Autumn Leaves, c'était le 28 décembre 1959, un extrait de l'album Riverside Portrait in Jazz, Bill Evans au piano, Scott LaFaro à la contrebasse et Paul Motian à la batterie. Paul Motian qui aura beaucoup fait pour le jazz des années 70 et 80, voire 90, mais qui, à l'époque, n'était pas encore vraiment pris au sérieux. Du reste, Tony Williams, nous revenons à lui, n'a certainement pas été influencé par Motian, mais par ce que Roy Haynes avait découvert tout au long des années 50 auprès de Charlie Parker, Miles Davis, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, Sonny Rollins, entre autres. Alors, Tony Williams.
Il faut être tout à fait clair, je crois que si on pouvait dire le plus grand batteur, je dis bien le plus grand batteur de l'histoire du jazz presque, ce serait Miles Davis. Je dis bien Miles Davis parce que la même musique a évolué, la musique de Miles a évolué terriblement au cours des années, mais il a su s'entourer de gens pour faire sonner sa musique Tony Williams est arrivé et qui a changé du tout au tout la manière de phraser, parce que dans ces tempos rapides qui avaient été d'ailleurs au préalable travaillés terriblement par Kenny Clarke dans des tempos d'enfer, comme on dit, n'est-ce pas, où personne ne pouvait plus jouer au début des années 40, eh bien Tony Williams a pris des tempos avec Miles d'une façon tout à fait extraordinaire, mais des tempos, le shabada, le tempo sur la cymbale n'était plus un shabada ternaire dans les tempos vifs, parce qu'on ne joue plus triolet dans le tempo vif, on joue des parties complètement binaires, dans tic 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 tic. Donc c'est complètement, vous voyez, c'est une autre façon de voir le tempo.
Oui, il faut se souvenir d'une chose, pour ceux qui ont eu la chance, comme nous, mais ça c'est le privilège de l'âge, de voir Miles sur scène, que Miles ne faisait jamais répéter son groupe, jamais. Mais en revanche, sur scène, il parlait constamment à l'oreille de ses batteurs, et notamment de Tony Williams.
Le feeling qui a été placé par Tony Williams après avec la Charleston tous les temps, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, est aussi une autre manière d'aborder complètement le tempo, une façon de phraser qui est complètement différente. Voici un exemple dans le style à la manière de Tony Williams.
Tony Williams a peut-être été, de sa génération, le premier des batteurs qui a utilisé avec tant d'art le contraste entre le pianissimo, le fortissimo.
Aujourd'hui, la plupart des batteurs, disons, jouent toujours vite et fort. Le problème, c'est qu'on a peur de se faire entendre. Alors, plus on joue fort, plus on a l'impression qu'on va convaincre. Et les batteurs qui utilisent vraiment toutes les nuances, je crois justement, nous parlons de Tony Williams, Jack DeJohnette, dans tous ces disques des années 60 avec Miles, il y a notamment des ballades où il intervient, il y a des plages de silence terribles, où on attend, et tout à coup il rentre d'une certaine manière aussi bien puissante, mais en même temps extrêmement délicate, et vous savez, c'est ce problème du son, ce que les Américains appellent « a dark sound ». Dark sound, qui est intraduisible en français, on dit un son foncé, un son sombre, oui. Pas dire grand-chose. Dark sound, c'est un son gras. Et ce qui est merveilleux...
Profond.
Gras, j'allais dire, où vraiment profond, c'est-à-dire que lorsque l'on frappe, on a un son qui, à lui seul, quand on a ce dark sound, eh bien, on a un beau son, quoi qu'on puisse jouer, quel que soit le style de musique que l'on joue, par exemple. Je ne change pas la qualité du son, c'est-à-dire que je joue la même rondeur de son indépendamment du volume. Parce qu'il est évidemment beaucoup plus difficile de jouer piano très vite. Très précis, très... Et en même temps, donner une dynamique dans ce piano.
Alors on ne peut pas... éviter la question, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure, des quatre temps sur la Charleston. Ça a été un coup de génie, ça a été peut-être aussi ce pourquoi Tony Williams, à partir des années 80, a commencé, il faut bien le dire, à s'imiter lui-même. Alors, le coup de génie, c'est pas de l'avoir joué, parce que finalement, c'est presque plus facile de jouer la Charleston sur tous les temps qu'un temps sur deux. Et puis, c'est de l'avoir fait entendre, parce qu'un musicien, au moins, l'avait fait avant lui. J'ai mis la main sur un enregistrement avec Jimmy Smith, l'organiste, ou Donald Bailey, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne joue pas vraiment la Charleston sur tous les temps, mais joue la Charleston sur toutes les syncopes, et c'était en 1960, soit 3 ans avant que Tony Williams n'enregistre son premier disque. Thank you. Back at the chicken shack, retour à la cage à poules. Maintenant, je crois que le temps est venu d'écouter Tony Williams. On va revenir d'ailleurs au même concert qui a été illustré au début de cette émission. Ça s'appelle Four and More. Et je sais qu'aujourd'hui encore, beaucoup de batteurs qui étaient à peine nés en 1964 disent que lorsqu'ils veulent revivifier leur inspiration, c'est ce disque-là en particulier qu'ils écoutent. 7 pas vers le paradis, 7 steps to heaven. Elvin Jones faisait fureur, Tony Williams venait à peine de laisser tout le monde bouche bée, et voici qu'en 1965 apparaît aux côtés de Charles Lloyd un extraterrestre de la batterie, Jack DeJohnette, comme le premier poète de l'instrument à composer en vers irréguliers.
J'étais à Montreux, au festival de Montreux, il y avait évidemment le trio de Bill Evans avec Eddie Gomez et précisément Jack DeJohnette. Ça a été un choc considérable. D'abord parce que cette batterie chantait, mais chantait comment ? D'une façon qui était complètement libre apparemment et en même temps complètement dedans. Parce que le problème pour un batteur, c'est d'en mettre dedans, comme on dit, c'est-à-dire... Que veut dire cette expression ? Il faut, c'est-à-dire en mettre dedans, c'est-à-dire en mettre dans le tempo. Nous vivons encore sur Jack DeJohnette. Je me souviens que Dizzy disait que Blackay a été le volcan de la batterie, Max Roach, le peintre qui a assemblé les couleurs, et Kenny Clarke est tout simplement le parrain de la batterie. Mais on peut dire que Jack DeJohnette est encore le grand maître de la batterie actuellement, sur laquelle tout a pu se construire depuis la fin des années 60. Tous les batteurs, absolument tous les batteurs, lui doivent quelque chose. C'est-à-dire que le temps se balade partout. On n'a plus... La Charleston ne marque plus le 2, le 4. La grosse caisse ne marque pas tous les temps. Il n'y a plus de Shabada sur la cymbale. C'est-à-dire que le temps... Le shuffle que nous avions vu avec Baby Dots et Zutty Singleton, eh bien, on le retrouve sous une certaine forme chez Jack DeJohnette, mais avec des timbres et des sonorités qui n'ont plus rien à voir d'une façon beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... où vous avez un shuffle, pom, 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 et vous avez une certaine manière de jouer, eh bien, ces sonorités-là ne posent aucun problème, mais quand ces sonorités sont agencées de cette manière-là, on entend toujours pa 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 pa, mais les points de repère ne sont plus du tout les mêmes, pom-pi-pom-pi-pom-pi-pom, sont sur une sonorité claire, cymbale, petit homme, grosse caisse, charleston, partout. Et le problème, c'est d'entendre où se trouve le premier temps.
Alors, Jack DeJohnette joue dans des centaines d'enregistrements. Nous avons, comme par hasard, tous les deux choisi le même morceau. Et ce n'est pas un morceau très impressionnant. Hein, ça n'a rien du solo de batterie de Buddy Rich sur West Side Story. Vous allez entendre maintenant Jack DeJohnette aux côtés de Joe Anderson dans Invitation.
C'est le dark sound dont je parlais tout à l'heure sur cette cymbale, où il ne fait pratiquement rien et il y a un tempo absolument extraordinaire sur une magnifique cymbale, généreuse.
Cette cinquième émission, voilà un écho inattendu de la première émission, Georges.
Vous entendez parfaitement le shuffle sur la cymbale ride, c'est-à-dire pada. Avec un coup de cymbale, les quelques coups que je viens de donner, nous venons de faire, en quelque sorte, presque un siècle d'histoire du shuffle qu'on avait sur les bords de caisse, sur les rimes, de Tony Spargo, tap toto pato topa toto pato topa, tip 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 tip, mais sur une sonorité de métal, et en réalité avec une musique qui s'est transformée d'une façon considérable avec la contrebasse, tout ça, avec les harmonies qui sont avec des standards et tout ça, mais avec une façon de phraser qui est toujours la même, mais avec des couleurs complètement différentes. C'est extrêmement important, c'est extrêmement difficile de faire simple. Difficile de faire simple parce que, par exemple, Koniquet, le batteur de Meneurs Quartet, ne fait quasiment rien à sa batterie. Vernel Fournier ne fait pratiquement rien, il accompagne, c'est d'une difficulté terrible.
Voilà un certain nombre d'émissions que nous ne cessons de parler de libération, comme si la musique du passé avait été une prison pour ceux qui la créaient. Alors, libération des quatre temps à la grosse caisse, libération du deuxième et du quatrième temps à la Charleston, libération du Shabada, libération des rudiments militaires sur les caisses. Nous ne parlons de libération, mais il faut faire maintenant, dans cette dernière émission, au moins un chapitre sur la batterie libre. Non pas libéré d'ailleurs, mais la batterie libre, la batterie
alors,
free.
Bon, alors là, c'est un phénomène nouveau, complètement nouveau. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que des musiciens ont décidé que la barre de mesure et le 1 dont nous avons beaucoup parlé n'existent plus. Il y a un système complètement différent qui est un espace sonore. Nous allons nous trouver avec des timbres utilisés dans un ordre presque parfois bien souvent identique, mais où il n'y a plus de pouvoir de référence sur un tempo marqué intérieurement par les musiciens en commun. Alors évidemment, les musiciens free diront qu'ils ont un tempo qui est d'une autre nature.
On a l'impression que ces batteurs-là sont des gens qui s'intéressent énormément à la percussion contemporaine, oui. Beaucoup, beaucoup plus que
tout
les batteurs des années 40 et
tout
des années 50.
Tout à fait.
Mais ils ne s'intéressent pas à la percussion contemporaine telle qu'elle apparaît dans les disques de John Cage ou de Jolivet ou d'autres.
Tout à fait.
Ils s'intéressent à un certain fantasme de la percussion
contemporaine. Tout à fait, voilà. Parce que ça, vous savez, c'est à double tranchant, cette histoire. Parce qu'en fait, ça a donné lieu à des batteurs qui ont cru être de très bons batteurs, alors qu'ils n'avaient absolument pas la moindre idée de ce que c'est que des exercices de frappe, n'est-ce pas ?
On a le droit de vouloir la fraîcheur et la virginité. Le problème, c'est que quand on la veut, on la programme. Et c'est une contradiction entre les termes. Faire du free jazz, voici que s'impose la loi des reins de l'économie de marché. Les batteurs des années 70, 80 et 90 très certainement ne vont s'imposer qu'en triomphant d'une compétition, celle qui leur ouvrira de préférence à d'autres la porte des studios d'enregistrement. Et ça, c'est une chose tout à fait nouvelle, en tout cas dans l'histoire du jazz. Les grands batteurs d'aujourd'hui, je veux dire en tout cas les plus célèbres ou les plus demandés, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose, sont des musiciens avant tout éclectiques, ce que n'étaient absolument pas tous les gens dont nous avons parlé. Encore que Tony Williams, Jacques DeJohnette et beaucoup d'autres ont largement prouvé qu'ils étaient capables de jouer Turner, Donner, d'autres choses encore.
Bien sûr.
Bref, ces batteurs qui occupent maintenant le haut du pavé sont des lecteurs de partitions, surdoués, capables d'interpréter à la perfection toutes les musiques, tous les tempos et tous les rythmes.
Finalement, on joue quand même avec une technicité absolument colossale. Alors, je pensais à une chose, voyez, nous avons parcouru du style tambour militaire de Didi Chandler, dont on a évoqué la pédale de grosse caisse, Baby Dodds, Utie Singleton, jusqu'à Peter Erskine, Jack DeJohnette. Eh bien, nous avons fait le voyage suivant. On a fait un contrôle de la baguette, un geste, une frappe, un rebond, la décontraction totale, un son, le retour du son, un nouveau geste, un nouveau son, un tempo, une phrase musicale, un enchaînement de phrases musicales, des réflexes, une patte sonore, une coordination, l'indépendance des membres, une disponibilité auditive et gestuelle, la musicalité, la respiration et la recherche d'un sens.
Au-delà, c'est le titre du morceau, forcément prémonitoire, qu'interprète maintenant son compositeur, Jean-Christophe Levinson au piano, Jean-François Jenny Clark à la contrebasse et à la batterie, un certain Georges Pagzinski qui, contrairement à la plupart des gens, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. À fleur de peau, l'histoire de la batterie, de l'ébène au laser, vous était proposée par le même Pagzinski et par Alain Gerbert. L'irremplaçable Marie-Cécile Mazzoni en assurait la mise en scène avec son brio coutumier. Et pour ce qui est de la prise de son, autrement dit des couleurs et des lumières, lorsqu'il est question de radio, nous avons bénéficié de la sympathie au sens le plus fort, car plusieurs d'entre eux ont déjà caressé la peau d'âne et les disques de cuivre, et de l'infaillible compétence de Gilles Pézra, Franck Malabry et Alain Joubert. Enfin, Xavier Casanova a assuré le rôle difficile de road manager durant toute la tournée qui nous a conduits au fil des jours du studio 119 au studio 117 en passant par le studio 105. Keep swinging!
Vous écoutez France Culture, 20h31.